Bonjour frères et sœurs, nous rendons grâce à notre Père pour l'opportunité qu'il nous donne aujourd'hui, non seulement de vivre, mais aussi de partager sa parole. Alors comme prévu, nous allons parler aujourd'hui des fêtes de l'Éternel, ou plutôt les sept fêtes de l'Éternel. Pour commencer, nous allons rapidement lire nos Bibles, prendre nos Bibles dans le livre de Lévitique. Et nous allons lire Lévitique chapitre 23. D'abord les deux premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont les fêtes de l'Éternel. Alors pourquoi avons-nous pensé qu'il était important de parler des fêtes de l'Éternel? Oui, parce que nous avons reçu beaucoup de questions sur les fêtes ou les célébrations chrétiennes. Quelles sont les fêtes que nous devons célébrer et quelles sont les fêtes que nous ne devons pas célébrer en tant qu'Église? Les fêtes de l'Éternel ici, c'était bien aimé des fêtes juives. C'était consacré aux Juifs. Mais dans cette génération, ou plutôt dans cette dispensation, il y a beaucoup de fêtes aujourd'hui dans les églises, quelquefois qui n'ont pas d'origine biblique. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il était important que nous parlions de ces choses. Parce que, bien aimé, si nous ne le faisons pas, ça sera comme ne pas apporter son aide à une personne qui se trouve en danger. Et nous serons condamnés de cette faute de non-assistance aux personnes en danger. C'est très important. La Bible dit, si tu vois quelqu'un en train d'aller vers la mort, tu ne sonnes pas d'alarme, c'est-à-dire que tu ne signales pas à la personne qu'elle est en train d'aller vers la mort, le sang de cette personne tombera sur ta tête. Mais il est mieux de dire à la personne qu'elle est en train de suivre le chemin de la mort, et si cette dernière refuse de se repentir ou de s'en détourner, alors tu seras quitte. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il était judicieux de parler sur les fêtes. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons l'Église en général, il y a beaucoup de fêtes et quelquefois beaucoup de désordre aussi. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons pensé qu'il était important que nous fassions ce message. Pour commencer, ce message ne vise pas dénigrer qui que ce soit. Non, nous tous nous apprenons. Et même lorsque vous verrez des choses qui sont anti-bibliques ou une fausse doctrine ou encore une fausse direction, bien aimé, nous vous demandons de nous le faire signe afin que nous puissions aussi être sauvés et suivre le chemin de la vie. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons tous vers la perfection. Alors, les fêtes de l'Éternel, il y a sept fêtes. Nous voulons ici parler d'abord d'une généralité parce que s'il faut toucher chaque fête et les expliquer, donner leur signification spirituelle par rapport à notre dispensation, je ne pense pas qu'en un seul message, nous pourrons tout épuiser. Nous allons aujourd'hui parler de ces fêtes en général et montrer des hérésies, c'est-à-dire des fêtes qui ne devraient pas exister dans les églises. Premièrement, la Bible nous parle ici du sabbat. Donc, il y a sept fêtes. La première fête, c'est le sabbat ou encore les sabbats. Deuxième fête, c'est la fête des Pâques et des pains sans levain. La troisième fête, c'est la fête des prémices. La quatrième fête, c'est la fête des semaines ou encore connue sous le nom de la fête des Pentecôtes. La cinquième fête, c'est la fête des trompettes. La sixième fête, c'est la fête des expiations ou le jour des expiations. Et ensuite, la septième fête, c'est la fête des tabernacles. Parlons d'abord du sabbat. C'est quoi le sabbat? Le sabbat, c'est le jour de repos. Parce que la Bible dit que Dieu travailla pendant 6 jours et le septième jour, Dieu se reposa de ses œuvres. Mais pour nous, que signifie le sabbat? Pour comprendre le sabbat, j'ai bien dit que c'est une généralité. Pour comprendre le sabbat, rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Hébreux, l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 4, du verset. Bon, je peux commencer à partir du verset 3. Je vais lire jusqu'au verset 9. Bon, jusqu'au verset 10. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est écrit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et il dit, quoique ses œuvres n'eussent été achevées depuis la création, car il a parlé quelque part, ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres, le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos, écoutez bien, verset 9, excusez-moi. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Je lis le verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alors c'est quoi le sabbat? Le sabbat ici, spirituellement, par rapport à notre dispensation, nous entrons dans le sabbat lorsque, bien-aimés, nous rentrons dans celui qui est le repos. Souvenez-vous de Jésus-Christ lorsqu'il parlait avec la femme samaritaine. Il a dit à la femme samaritaine, « Donne-moi de l'eau à boire. » Cette femme lui a dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Et Jésus va dire à cette femme, « Si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Et je t'aurais donné de l'eau vive et cette eau. » Il dit à cette femme, « Tu pourras boire de toute eau, mais l'eau que moi je te donnerai fera de toi une source d'eau vive qui coulera jusqu'à la vie éternelle. » Mais il dit, « Tu pourras boire de toute eau, tu auras soif. Mais si je te donne mon eau, tu n'auras plus jamais soif. » Et cette femme va dire, « Alors donne-moi cette eau afin que je ne revienne plus. » Ici, puiser de l'eau. Jésus va dire, va m'appeler ton mari et viens. Il dit, je n'ai pas de mari. Il dit, ok, ce que tu as dit, c'est vrai. Parce que tu as eu 5 maris et le 6e qui est à la maison n'est pas ton mari. Autrement dit, c'est moi qui suis le 7e. Si tu rentres en moi qui suis le 7e, c'est alors que tu vas connaître le vrai repos. Le repos ici, c'est le repos de l'âme. Dans Job chapitre 14, verset 1, la Bible dit, tout homme né de femme, né d'une femme, sa vie est sans cesse agitée. C'est lorsque nous entrons en Christ et que Christ rentre en nous, bien-aimés, que nous connaissons le repos. Et c'est ça le repos de Dieu. Et ce repos n'a rien à voir avec les jours de la semaine. Parce qu'aujourd'hui, dans certaines églises, on a fait du dimanche le jour de repos. Voilà encore, bien-aimés, une hérésie. Considérez le dimanche comme étant le jour de repos. Parce que lorsque nous regardons d'abord le sabbat, en prenant en termes de jours, sans parler du spirituel. Les Juifs ne comptaient pas les jours à partir du lundi. Les Juifs commençaient le premier jour de la semaine, si les Juifs, c'était le dimanche. Et le sabbat, le sabbado, le septième jour, Shabbat, c'était le septième jour. Le septième jour, c'était le samedi. Donc, s'il fallait considérer le dimanche, le septième jour de la semaine, comme étant le jour de repos, ça devait être le samedi. Mais aujourd'hui, les gens considèrent le dimanche comme le jour du Seigneur. Et vous voyez, les gens qui ont la mentalité de l'ancienne alliance, bien-aimés, lorsqu'ils ont le service dans l'église, quelquefois, vous constatez la différence entre la journée du dimanche et les jours de semaine. J'ai entendu un homme de Dieu dire, tu peux fuir l'église n'importe quel jour, mais en tout cas, le dimanche, il ne faut jamais manquer, parce que le dimanche, c'est le jour de sabbat. Je me rappelle à une sœur comme ça qui était allée à Dubaï. Et là-bas à Dubaï, le premier jour là-bas, bien aimé, c'est le dimanche. Le septième jour, c'est le samedi. Là-bas, les gens commencent le boulot le samedi, plutôt le dimanche. Ce qui fait que les gens vont à l'église. C'est-à-dire que le jour de culte, c'est le vendredi, même les églises. Alors, il était scandalisé de voir que les gens partaient à l'église, partaient au boulot le dimanche, alors qu'elle était déjà habituée, hein, dans sa mentalité religieuse, qu'il fallait prier le dimanche. Elle était scandalisée. Comment ces gens font pour aller travailler le dimanche? Le dimanche, c'est le jour où il faut rester à la maison. Rien à voir avec les Écritures. Donc, bien aimé, le sabbat, c'est le repos par rapport au péché. Quand tu rentres dans le sabbat de Dieu, tu n'as pas besoin d'un jour pour ne pas pécher. Alors, tu vis la sainteté tous les jours. C'est très important. La deuxième fête, c'était la fête de Pâques et la fête des pains sans levain. La Pâques, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le mois de mars et avril que partout dans le monde, les gens célèbrent la Pâques. En tout cas, ce jour-là, il faut aller à l'église. Il faut célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais que dit la Bible? Disons, en Corinthiens, chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, ce que l'apôtre Paul écrit sur la Pâque. 1 Corinthiens 5, on peut lire du verset 6 au verset 7. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête, non pas avec le vieux levain, non avec le levain de la malice, de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la sainteté. Vous savez que Christ est le pain descendu du ciel, et si Christ est le pain, nous qui sommes le corps de Christ, nous sommes aussi le pain. On ne doit pas trouver la levure qui est le péché en nous. Donc, la Pâque, c'est la célébration de la Pâque. Comme on dit, Christ est notre Pâque qui a été immolé. Ce n'est pas un jour donné. Hein, je me rappelle, la sœur nous avait posé une question comme ça. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, le monde célèbre la Pâque? On n'a pas un message sur la Pâque, un message sur la résurrection. Et comme c'est devenu comme ça dans le monde, on pense que, non, mais voilà, c'est ça la norme. Bien-aimés, faisons très attention. Lorsque nous lisons les Écritures, vous allez constater que les apôtres ne faisaient pas les choses comme ça. Parce que la Pâque, premièrement, est une fête juive. Hein? Pour commencer, la Pâque est une fête juive. Ce n'est pas une fête chrétienne, mais c'est une fête juive. Pourquoi on célébrait la Pâque? La Pâque était célébrée pour commémorer la sortie des enfants d'Israël qui avaient fait 400 ans sous l'esclavagisme, sous la domination égyptienne. Et lorsqu'ils sortaient, la Bible dit dans Exode chapitre 12, Dieu avait dit à Moïse, vous tuerez un agneau, et ce jour-là, je frapperai tous les premiers-nés de l'Égypte, et l'ange de la destruction passera au-dessus des maisons où on mangera l'agneau, et partout où on va manger l'agneau, on mettra le sang sur des linteaux, de telle sorte que ceux qui sont dans la maison soient protégés. Et c'est ce qui s'était passé. Mais ce jour-là, vous devez sortir, vous sortirez de la maison en courant. Et ça se passera entre les deux soirs. Et c'est ce qui s'était passé. L'ange de destruction a frappé les premiers-nés en Égypte et tous ceux qui étaient dans les maisons où on avait mangé l'agneau, où il y avait le sang sur le linteau, ces gens étaient protégés. Et finalement, l'ange était passé au-dessus. Et c'est comme ça que on a eu, hein, par exemple, le mot Pâques. Le mot Pâques signifie passer au-dessus ou encore épargner, parce qu'ils avaient été épargnés de la destruction, de l'ange de la destruction. C'est comme ça que, pour célébrer la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte et du fait d'être épargnés ce jour-là, les enfants d'Israël avaient commencé à célébrer la Pâque. Mais pour nous, chrétiens, certains ont dit que non, mais voilà, comme nous sommes aussi sauvés du monde, hein, du système du monde, donc on peut aussi célébrer la Pâque comme pour commémorer, bien-aimé, notre sortie du monde. Bien-aimé, nous n'avons pas besoin d'attendre le mois de mars ou d'avril pour dire merci à Dieu de nous avoir sauvés. Donc, par rapport aux Écritures, selon la lumière des Écritures, il n'y a pas un endroit qui nous demande à un moment donné de célébrer la Pâque. Mais si nous voulons célébrer la Pâque de l'Éternel, nous pouvons le faire tous les jours. Donc il n'y a pas un jour précis, comme le sabbat, il n'y a pas un jour précis, mais devons célébrer le sabbat tous les jours. C'est très important. Je me rappelle, nous étions dans une église quelque part, lorsqu'on devait prendre la Sainte Cène, on disait souvent, écoutez, cette semaine 6, par exemple, le dimanche prochain, le dimanche qui arrive, nous allons prendre la Sainte Cène, marcher dans la sainteté, dans la pureté, parce que vous allez prendre le repas du Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on n'a pas besoin d'une cérémonie quelconque ou de prendre la Sainte Cène pour marcher dans la sainteté. Mais la sainteté, tous les jours, vous allez remarquer ici que juste après la fête de Pâques, c'était la fête des pains sans levain. Donc, c'était la même période. Donc, vous êtes sauvés. Les pains sans levain, c'est lorsque tu es sauvé de la mort, du péché. Dès que tu quittes le monde, tu marches maintenant dans la sainteté tous les jours de ta vie. Donc, tu n'as pas besoin d'un jour donné, mais tu marches dans la sainteté tous les jours parce que tu fais partie des saints. C'est très important. Donc, après la Pâque de l'Éternel, après la Pâque, c'était la fête, c'est dans Lévitique chapitre 23, c'était la fête des prémices. Alors, la fête des prémices, ou encore la fête de la moisson, c'était une fête pendant laquelle le peuple juif reconnaissait que le fruit de la terre venait du Seigneur. Donc, cette fête était associée à la fête des pains sans levain aussi également. Les prémices devaient être consacrées à l'Éternel, c'est-à-dire les premiers-nés, que ce soit des produits de la terre ou encore les premiers-nés des animaux, etc. C'était une célébration. Malheureusement, aujourd'hui, les gens mal inspirés ont ramené les prémices également aujourd'hui dans les églises. On dit que les prémices, par exemple, c'est le premier salaire. Et le premier salaire doit appartenir au pasteur. On appelle ça prémices. Ou si tu commences un business, ton premier revenu doit être dirigé vers l'homme de Dieu. Rien à voir avec les Écritures, que ce soit dans l'Ancienne Alliance ni dans la Nouvelle Alliance. Les prémices, comme je disais tout à l'heure, c'est la fête des prémices. Reconnaissez simplement que le fruit de la terre venait du Seigneur. Et cette fête est associée à la fête de pain sans levain. Après cela, il y avait la fête des semaines. La fête des semaines, c'est aussi la fête de la Pentecôte. Aujourd'hui, souvent, lorsqu'on parle de la fête de Pentecôte, les pentecôtistes aujourd'hui célèbrent la fête de Pentecôte comme la fête du Saint-Esprit. Une fois de plus, ça n'a rien à voir avec les Écritures. Il est vrai que dans Actes chapitre 2, que c'était le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le jour où les Juifs célébraient cette fête des semaines ou la fête de Pentecôte. Pentecôte signifie simplement 50. C'est une fête qu'on célébrait après 7 semaines, parce que 7 fois 7, c'est 49. Donc, c'est le 50e jour. Après les 7 semaines, on célébrait la fête de semaine, le 50e jour, la fête de Pentecôte. C'était ce jour-là que le Saint-Esprit était descendu sur les disciples, mais les disciples ne célébraient pas la Pentecôte. Les disciples étaient dans la chambre haute en train de prier, et c'est ceux qui célébraient la Pentecôte qui avaient constaté, qui avaient vu le signe. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans le monde religieux, c'est devenu une fête. On dit que c'est la fête du Saint-Esprit. Et généralement, ces jours-là, la fête de Pentecôte, partout, c'est le message qui insiste sur le baptême de l'Esprit, qui parle des dons spirituels, etc. On dit que nous célébrons la fête de Pentecôte. Mais lorsque nous regardons par rapport aux Écritures, une fois de plus, les apôtres, après, n'ont jamais célébré la Pentecôte. Donc, c'est simplement une fête religieuse. Ça n'a rien à voir avec la Nouvelle Alliance. Après cela, la cinquième fête, c'était la fête des trompettes. À partir du verset 23 de Lévitique 23, on dit « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son de la trompette, et une sainte convocation, vous ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Donc, au son de la trompette, la fête des trompettes avait lieu le premier jour du septième mois, probablement pour se préparer, pour se rappeler que le jour des expiations approchait, et pour s'y préparer. Dieu voulait qu'Israël pense à ces choses spirituelles, en particulier son alliance avec lui. Donc, la fête des trompettes consistait en fait, c'était une convocation solennelle. C'était une façon de rappeler, de signaler aux gens que bientôt, c'est la fête des expiations. Donc, vous devez vous préparer à cela. C'est très important. Maintenant, pour nous, que signifie cette fête de trompette? La trompette ici représente, le son de la trompette représente, bien aimé, le son de l'évangile. Hein? Si vous lisez par exemple dans Nombre chapitre 10, Dieu avait dit à Moïse de fabriquer deux trompettes d'argent. La première trompette servait pour le rassemblement des peuples. La deuxième trompette servait pour le départ. Et l'apôtre Paul, parlant de la trompette, il dit qu'au son de la trompette, les morts resteront premièrement, ils seront tous changés, et nous allons monter à la rencontre du Seigneur dans la gloire. Donc les trompettes ici, la fête des trompettes, nous rappelle ici que nous devons annoncer que Christ y revient. Annoncer aux hommes d'abandonner le péché, de quitter le péché et d'annoncer que Jésus-Christ revient bientôt. D'annoncer aussi qu'il y aura un son de la trompette qui marquera bien aimé l'enlèvement de l'Église. Hein, selon le passage que je venais de dire dans Nombre chapitre 10, où Dieu dit à Moïse de fabriquer deux trompettes d'argent. La première trompette servait pour le rassemblement de peuple. Ça, c'est les cinq ministères. La trompette de l'évangélisation, de l'évangile. La deuxième trompette, c'est pour le départ. Ça, c'est ce que Paul dit qui servira pour le départ de l'assemblée, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Donc, la fête des trompettes ici représente simplement, la fête représente simplement que nous ne devons pas nous taire, mais nous devons continuer à annoncer l'Évangile parce que Jésus revient bientôt. Il est écrit dans Matthieu 24, verset 15, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde et après quoi viendra la fin. Ensuite, après, il y avait la fête des expiations. Durant cette fête, hein, la fête des expiations, ou le Yom Kippour, c'était le jour où on offrait le sang, hein, le sacrificateur entrait avec le sang de l'animal dans le tabernacle. Il y avait le bouc d'Azazel qu'on libérait, qui devait servir d'expiation. Et lorsqu'il sortait du tabernacle, il aspergeait le sang sur les peuples, une façon de montrer ou de dire que vous êtes purifiés. C'est très important. Donc avant qu'on puisse toucher l'animal, on amenait d'abord l'animal dans le lieu très saint. Il y avait un animal qu'on tuait, on en sortait avec l'animal. On amenait l'animal dans le lieu très saint. Il y avait deux animaux, hein, il y avait deux animaux. Il y avait un qu'on tuait, on portait son sang dans le tabernacle. Et lorsqu'il sortait du tabernacle, on mettait maintenant la main sur l'animal qui était vivant, le bouc d'Azazel, on le libérait. Et celui-ci partait hors du camp, une façon de dire qu'il partait hors du camp avec le péché. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ aussi, il fut crucifié hors du camp. Hein? Il fut crucifié hors du camp pour montrer que c'était lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Mais lorsqu'il est ressuscité, il a dit à cette femme, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Dieu qui est votre Dieu, vers mon Père qui est votre Père. On ne devait pas le toucher. Il fallait d'abord qu'il monte vers le Père. Et qu'est-ce que nous constatons? Lorsqu'il est revenu vers les disciples, il a dit à celui qui ne croyait pas, à Thomas, « Touche mes mains, touche mes pieds. » Alors ça, c'est notre sujet, nous parlons de ça un peu plus tard. Donc le jour des expiations, c'était la fête pour célébrer le pardon de péché. Et une fois de plus, le pardon de péché, c'est tous les jours, c'est-à-dire lorsque nous sommes pardonnés de tous nos péchés, nous sommes pardonnés. Ça veut dire quoi? On n'a plus besoin de demander pardon pour des péchés pour lequel Dieu nous a déjà pardonné. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu comme un système dans les églises. Dès que les gens se retrouvent, on commence par dire merci et on dit demandez pardon à Dieu. Même si vous n'avez pas péché, demande seulement pardon. Parce qu'il y a un verset qui dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est Dieu lui-même. Donc, c'est devenu comme un système dans les églises. On demande pardon, après on invoque le sang. Une fois de plus, dans la Bible, on ne voit pas un endroit où les apôtres ont invoqué le sang. Et on invoque le sang, après on invoque le Saint-Esprit, etc. C'est devenu comme des systèmes. Rien à voir avec l'ancienne alliance, rien à voir avec la nouvelle alliance. Ensuite, il y avait la fête des tabernacles. Durant cette fête, hein, cette fête se passait le 15e jour du 7e mois. Donc c'était le jour des expiations, c'était le dixième jour du septième mois. Donc, 5 jours après, c'était la fête des tabernacles. Et durant cette fête, pendant toute une semaine, le peuple juif devait passer la nuit en vivant dans des tentes pour se souvenir que leur père, hein, le père Abraham, leur père ont vécu dans les tentes. Pour nous, cela signifie que nous devons nous rappeler que le corps dans lequel nous vivons maintenant est une tente. Notre vraie demeure est céleste. C'est là où l'apôtre Paul dit, si cette tente est détruite, mais nous savons que notre demeure est en sécurité. Pour dire quoi? Nous vivons dans la chair, mais les souffrances que nous croisons maintenant ne sauraient être pesées par rapport à la gloire qui nous attend. C'est pourquoi nous devons plus travailler pour notre demeure céleste et nous devons plus travailler pour garantir les trésors qui sont dans les cieux et non celles qui sont, et non les trésors qui sont sur la terre. C'est-à-dire, c'est vrai que nous avons ce corps. Nous devons prendre soin de ce corps, mais ne pas avoir nos yeux fixés sur ce corps, parce que ce corps, c'est une maison de passage. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et ce corps-ci est appelé à détruire. C'est un corps corruptible. Notre vrai être, c'est ce corps incorruptible que nous allons porter lorsque, bien aimé, nous connaîtrons la rédemption de notre corps. Donc, la fête des tabernacles, c'était une fête qui marquait le rappel, les gens devaient se rappeler que ce corps-ci, c'est un corps de passage. Voilà pourquoi lorsqu'on meurt, on met ce corps dans la tombe et ce corps reste. Et Dieu a dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ce corps-ci est poussière. Nous allons revêtir notre corps céleste et c'est ce corps-là qui va demeurer. Donc voilà, bien-aimés, en général, les 7 fêtes de l'Éternel. Mais d'où vient aujourd'hui dans les églises, il y a plusieurs fêtes qui n'ont rien à voir ni avec l'ancienne alliance ni la nouvelle alliance. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous célébrez la Noël, fête de Noël, on dit la nativité de Christ. Savez-vous que ce n'est pas biblique? Dans la Bible, on n'a jamais célébré la naissance de Christ. Parce que la Bible dit un fils nous est né, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller Père éternel. Ce qui concerne l'Église, c'est la résurrection de Christ. Parce que Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il était venu bien-aimé premièrement. Lorsqu'il marcha sur terre, il appartenait à Israël. Voilà pourquoi il pouvait dire à cette étrangère, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Donc, pour un premier temps, lorsqu'il était dans la chair, bien-aimé, il était venu, comme lui-même disait, pour les brebis perdues d'Israël. Mais bien aimé, ce salut devait s'étendre vers les nations lorsqu'il devait mourir et ressusciter. C'est lorsqu'il est mort et ressuscité que le mur de la séparation qui empêchait aux gens d'aller dans le lieu très saint était brisé. Le voile était déchiré. La séparation entre Israël et les nations était brisée. Maintenant de deux peuples, il n'en a fait qu'un seul. C'est ainsi que nous sommes rentrés bien aimés dans cette alliance. Donc pour nous l'Église, ce qui nous concerne, ce n'est pas la naissance, mais c'est la mort de Jésus-Christ. La mort et la résurrection. Voilà pourquoi en aucun lieu, vous verrez les disciples ou les apôtres demander aux gens de célébrer la naissance de Christ. Mais la mort et la résurrection. Voilà pourquoi en partant, ils ont établi par exemple la Sainte Cène. Et l'apôtre Paul parle de ça dans le livre de 1 Corinthiens 11, je pense. Là où il parle, bien aimé, du repas du Seigneur. Le repas du Seigneur concerne l'Église. Bien aimé, c'est très important. La Noël n'a rien à voir avec l'Église. C'est une fête païenne et c'est un moment où les commerçants se font simplement de l'argent. Et pire encore, lors de la Noël, on établit un Père Noël qui vient pour prendre la place du Père Céleste, lui qui apporte les cadeaux. Faisons très attention. J'ai vu beaucoup de gens comme ça. Oh non, ça ne fait rien, on peut célébrer. C'est simplement la fête des enfants. Ça n'a rien à voir avec la fête des enfants. Et la Bible dit, enseigne à l'enfant les voies qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ce n'est pas une fête chrétienne. Ce n'est pas une fête biblique. Nous n'avons pas raison de célébrer cette fête. J'ai vu des gens célébrer aussi la journée de la femme à l'église. Rien à voir avec la Bible. Non, le 8 mars, la journée des mamans. On va célébrer la fête de la femme. rien à voir avec l'Église. Faisons très attention. Il y a beaucoup de fêtes comme ça dans le monde, mais qui ont infiltré l'Église. Fêtes de l'Ascension de Marie, fêtes des rameaux, etc. Rien à voir avec l'Église. Rien à voir avec les Écritures. Nous devons sortir de ces choses. J'étais scandalisé voyant certains chrétiens célébrer même la fête d'Halloween. Une fête où Satan est vénéré comme ça. Où les enfants sont déguisés en démons. Et vous célébrez ces choses-là. Faisons très attention, bien-aimés. La Bible dit, la nuit est avancée et le jour approche. Il est temps que nous puissions nous réveiller du sommeil spirituel. Quelqu'un disait, ah mais finalement, si on doit enlever toutes ces fêtes, on n'aura pas de célébration. Vous voyez, les gens ont l'esprit des fêtes. Ils veulent fêter, ils veulent célébrer. L'amour des fêtes, l'amour des célébrations. Voilà pourquoi on veut garder un certain nombre de choses dans l'Église. Bien-aimés, faisons très attention. Lorsqu'on célébrait ces fêtes en l'honneur de l'Éternel se manifestait. Et quand vous célébrez aussi en l'honneur d'autres dieux, ces dieux-là vont se manifester au milieu de vous. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas que d'autres esprits influencent l'Église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous célébrez les choses qui n'ont rien à voir avec la Bible, avec la parole de Dieu. Lisez bien les Écritures. On dit que la fête de Noël, c'est le 25 décembre. Et quand vous lisez par rapport à l'histoire, c'est l'histoire d'un dieu romain, lorsque bien-aimé, même Marie qui est vénérée aujourd'hui à l'Église catholique, il y a même une prière à l'honneur de Marie. Votre Vierge, c'est pas la Vierge Marie, intercède pour nous pauvres pécheurs. Il est écrit dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ est homme. Mais d'où vient que Marie devient une médiatrice? Une médiatrice. Il y a une femme qui m'avait dit, tu sais, l'intermédiation de Marie entre Marie et les hommes serait plus forte que la médiation encore, le passage par Christ, parce que Marie, c'est elle qui a accouché Jésus. Donc si tu passes par la mère, c'est une médiation directe. Bien-aimé, ça sont des hérésies. La Bible dit, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Je ne peux pas aller vers le véritable Dieu, l'Éternel des armées, le Créateur du ciel et de la terre, en passant par un autre chemin. C'est seulement par Christ. Si tu passes par un autre chemin, tu iras vers le monde spirituel, mais certainement pas vers le Dieu véritable. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, cessons avec toutes ces fêtes qui n'ont rien à voir avec les Écritures, cessons avec toutes ces fêtes qui ne glorifient pas l'Éternel, mais vivons la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous verrons la gloire de Dieu. Préparons-nous, Jésus-Christ revient bientôt. Et tous les signes sont là. Tous les signes sont là. La Bible dit, vous entendrez parler de guerre. On entend parler, on en a vu. La Bible dit, ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme, comme au temps de Lot. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Deux choses caractérisaient ces deux époques. Le matérialisme. Trois choses, je dirais. Le matérialisme. Deuxièmement, la dépravation sexuelle. Quatrièmement, et plutôt troisièmement, la violence. Premièrement, le matérialisme. Deuxièmement, la dépravation sexuelle. Troisièmement, la violence. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. La légalisation du mariage homosexuel. Et on voit même l'homosexualité dans l'Église. Bien-aimés, d'où viennent ces choses? Faisons très attention. C'est un signe que Jésus revient bientôt. Et un autre grand signe, c'est la prolifération des faux prophètes. Jésus a dit que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront en mon nom. Et ils séduiront des foules. Plusieurs seront séduits à cause des miracles et des signes. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tous ces gens bien-aimés qui courent après l'argent, qui font l'œuvre de Dieu pour de l'argent, ils sont nombreux au milieu de nous. C'est un grand signe que Jésus est à la porte. Christ revient très bientôt. Donc si tu ne marchais pas sur la bonne voie, si tu suivais tes propres voies, si tu étais encore dans le péché, il est temps que tu te répandes et que tu fasses demi-tour. Repars vers le Père. Il va t'accueillir, car il a dit, il ne rejette jamais ceux qui viennent à lui. Que Dieu nous bénisse. Si le Seigneur fait grâce, nous prendrons le temps pour expliquer chaque fête et donner la signification spirituelle pour notre dispensation. Je pense que par la grâce de Dieu, on a compris un peu, en général, ce que c'est les fêtes de l'Éternel et quelles sont les fêtes que nous devons célébrer aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Amen.